17h-19h, l'Afterworld.
Attitude au cœur du Festival International de la Bande Dessinée, nous recevons Giorgia Casetti, bonjour.
Bonjour.
Giorgia, vous êtes illustratrice, née dans la ville de Florence en Italie. Vous vous êtes très vite intéressée à la bande dessinée. Après des études d'art plastique, vous avez aussi étudié l'illustration dans une école spécialisée avant de travailler dans le dessin animé. Et suite à votre arrivée en France, vous vous êtes établie en tant qu'illustratrice et coloriste. Votre parcours comprend diverses collaborations avec des scénaristes et des projets solo. Qu'est-ce qui a éveillé votre intérêt pour la bande dessinée au collège au point de vouloir en faire et pas seulement en lire?
Oui, alors effectivement, j'ai commencé à dessiner très tôt, même avant le collège, je dirais, aux écoles élémentaires. J'avoue que je pense que tout commence avec ma babysitter qui me faisait lire des bandes dessinées à partir des Mickey classiques ou des premières bandes dessinées un peu ado de Witch qui était sorti en Italie quand j'étais au collège, première année au collège. Et depuis ce moment-là, j'ai plongé dans l'univers de la bande dessinée, de kiosque. En Italie, on diffusait la bande dessinée, enfin, on a accès à la bande dessinée facilement au kiosque. Et ça, c'est devenu vite un intérêt, une passion, et j'ai commencé à dessiner avec mes amis comme une activité, un hobby, mais après c'est devenu vite une espèce de un peu une obsession. Je dessinais tout le temps et j'ai décidé de continuer mes études dans ce sens-là. Et j'ai jamais arrêté. Voilà.
C'est vrai qu'en Italie, il y a quand même une bonne culture, notamment la culture Disney. C'est quoi? C'est le magazine Topolino qui.
Il y a Topolino, ouais. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de diffusion de bande dessinée en librairie quand j'étais toute jeune. Ça s'est développé dans les dernières années. Et du coup, l'accès à la bande dessinée, c'était surtout au kiosque. Il y avait Topolino, il y avait des bandes dessinées un peu plus. Voilà, il y avait des noirs, western, toujours au kiosque en noir et blanc, des petits formats faciles à lire un peu partout qu'on pourrait acheter à des petits prix. Et il y a eu l'arrivée des mangas quand j'étais au collège toute jeune, mais il nous manquait un peu toute la partie graphic novel et les grands formats franco-belges. Et on a découvert ça un peu plus récemment, disons, quand moi j'étais déjà au lycée, mais voilà, du coup quand j'étais toute petite, ça n'existait pas trop, c'était pas très accessible. Voilà. Et voilà, c'était facile de connaître la BD à travers des magazines et des formats plus de poche. Voilà, disons.
Et au fil des rencontres, du coup, vous avez été amené à pas mal voyager et vous êtes retrouvé par un heureux hasard à Angoulême. Qu'est-ce qui vous a amené à Angoulême?
Alors, j'étais déjà en France parce que j'ai quitté l'Italie assez tôt, j'avais 20 ans, et je suis arrivée à Paris au début. Et de Paris, j'ai travaillé, j'ai fait pas mal de travaux alimentaires parce que voilà, Paris c'est une ville assez chère. Mais j'ai rêvé de faire de la bande dessinée. Ce qui m'avait rapproché au début, c'est que j'ai travaillé en librairie jeunesse quand j'étais à Paris. Mais j'ai voyé Angoulême d'une manière un peu comme un rêve, parce que j'avais découvert l'existence de la Maison des Auteurs d'Angoulême, qui est une résidence que je trouve incroyable. C'est une occasion incroyable pour les auteurs de tout le monde. Alors j'ai pris courage et j'ai postulé, alors que j'arrivais pas vraiment encore à travailler, à me soutenir avec mon travail de dessinatrice. J'avais commencé déjà à Paris à faire des illustrations ici et là, ou d'être coloriste par exemple, mais quand j'ai pris courage en 2016, j'ai proposé un projet à la Maison des Auteurs et j'ai été acceptée. Et c'est ça qui a déclenché un peu voilà, la réalité d'être dessinatrice après.
Donc depuis, vous êtes ici.
Ouais.
Ces jours-ci, vous assurez la promotion de l'ouvrage Abby et Walton, une collaboration avec la scénariste Anaïs Allard, parue chez Delcourt en septembre dernier. C'est l'histoire d'Abby, une jeune fille du 19e siècle qui vit avec sa mère dans un hôtel. Elle a l'esprit d'aventure, mais c'est bien la seule car tout est très rigide autour d'elle. Et un jour, en allant fouiller dans une chambre condamnée, elle réveille le fantôme de Walton, un jeune homme pour le moins agaçant et collant, c'est pas peu dire.
Oui.
Et pour Abby, donc, l'urgence va être de se défaire de Walton, quitte à devoir l'aider pour pouvoir mieux s'en débarrasser.
C'est ça.
C'est une aventure initiatique, donc, sur l'indépendance, la curiosité, la recherche du bonheur. Est-ce qu'en tant qu'illustratrice, l'histoire et les personnages ont une importance particulière dans le choix de vos projets, ou est-ce que vous laissez plutôt le soin aux différents scénaristes de développer leur univers et ensuite, voilà, vous répondez à des demandes précises?
Alors, chaque scénariste travaille effectivement à sa manière, et moi je suis très curieuse de travailler avec des scénaristes différents aussi, et me mettre dans des conditions de deux couvertes, voilà, de recherches différentes. J'aime bien sortir de ma zone de confort. En général, jusqu'à présent, j'ai travaillé avec des scénaristes qui m'ont laissé un bon espace de recherche.
D'accord.
Avec Anaïs, par exemple, elle m'a fait lire l'histoire et elle m'a juste donné, elle m'a juste invité, voilà, à développer un personnage, une petite fille qui était un peu espiègle, un peu tomboy. Et ce qui a fait que j'ai commencé mes recherches assez librement. Et avec elle, au fur et à mesure, on s'est dirigé vers la définition d'un personnage, d'un character design, plutôt que d'un autre. Mais j'ai été toujours assez libre jusqu'à présent. Je ne dirais pas non si un scénariste voudrait me proposer quelque chose de plus rigide, si j'aime bien l'univers et que je suis curieuse. Mais j'avoue que j'ai eu la chance d'être très libre jusqu'à maintenant.
Mais donc là même, en partant du niveau visuel, vous êtes aussi intéressée, voilà, à la psychologie du personnage et vous l'avez élaboré comme ça, vraiment à deux.
C'est ça qui fait la plupart du travail, je pense, parce que le dessin est en fonction de la narration. Narration... pas que écrite, voilà, on parle de narration complète, visuelle. La couleur aussi. J'ai cherché d'éviter le rose classique que souvent on associe, voilà, aux jeunes filles de 12, 13 ans, voilà. Et aussi les expressions, elles sont assez rigolotes. J'ai voulu un petit peu faire jouer le personnage avec son caractère, avec son humour. Et je me suis un peu laissée aller amuser, voilà, avec le personnage.
Vous savez que pendant 4 jours, des milliers de personnes vont faire le déplacement jusqu'au festival. Et si vous aviez des conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent et qui voudraient faire votre métier, ce serait quoi?
Oui. Alors, de suivre la passion. Je sais que c'est pas simple parce que c'est un métier très intense, le métier d'autrice, auteur, autrice, dessinateur, dessinatrice. Il faut être motivé parce que c'est pas simple au début. C'est pas un parcours très structuré. Je pense qu'en France, il est beaucoup plus qu'en Italie. Du coup, je pense que si maintenant il y a des très bonnes écoles, il y a des parcours d'études qui rendent très solide la préparation des étudiants et des jeunes à ce métier. Mais vu le contexte, le fait qu'il faut travailler beaucoup en solitude aussi, et il faut prendre aussi des week-ends, pas avoir un emploi du temps très structuré, je pense qu'il faut vraiment avoir de l'amour pour ce métier. Sinon, ça vaut pas trop la peine, je pense, de dessiner juste pour l'acte un peu mécanique du dessin. Il faut vraiment y mettre du cœur, je pense, pour faire quelque chose d'intéressant et de parler aux gens. Voilà, il faut...
Surtout que, comme Sébastien le disait tout à l'heure, vous n'avez pas vraiment de cahier des charges, enfin, vous n'avez pas eu jusque-là vraiment de cahier des charges défini par les auteurs. Ouais. C'est vous qui avez vraiment influencé vos propres dessins. Oui. Donc, effectivement, oui, il faut vraiment laisser cours à votre imaginaire.
Oui, il faut.
Moi, j'ai une autre question qui peut paraître assez simple, mais dans la bande dessinée Abby Walton, notamment, vous êtes coloriste et illustrateur.
Ouais.
Vous faites les deux.
Ouais.
Et ça consiste en quoi pour les novices de la bande dessinée
Oui. Alors, je suis contente de dire ça parce que c'est vrai que quand on voit la bande dessinée, on ne s'en rend pas compte facilement. Alors, moi, j'ai fait tout un état dessiné à la main. À partir des croquis, des storyboards. Et après, quand je finalise les pages, j'utilise tout simplement du crayon. J'ai fait un dessin tout léger au crayon, un crayon un peu rouge, qui met pour tirer, voilà, des traces, une structure. Et je fais sur ça de l'aquarelle et je repasse les lignes avec de la graphite. Et l'aquarelle me donne comme des mi-teintes. Ça me permet d'avoir des ombres, des atmosphères, et de les placer déjà. Et toutes les lignes sont propres et sont faites à la graphite avec des micromines. Et après, juste après, j'ajoute la couleur en digital. Mais du coup, j'ai besoin juste des aplats. Ou voilà, grosso modo des grands aplats de couleurs, parce que j'ai déjà donné des nuances avec l'aquarelle. Et l'effet final, ça a l'air d'être plutôt dessiné à la main, mais voilà, c'est, ça reste dessiné à la main, mais il y a une bonne partie aussi de colorisation digitale. Et je laisse à la fin des petites touches, des petits effets de lumière ou de magie, comme l'histoire est fantastique. C'est pas mal d'ajouter des petits effets à Photoshop toujours. Il faut travailler, voilà. Du coup, je travaille à la main et au logiciel aussi, ce qui permet d'avoir un bon contrôle du résultat final.
Et puis, ça permet de laisser un rendu, j'allais dire, un peu organique. On voit le grain du papier encore.
Oui, on voit vraiment
la bande dessinée. Ouais.
D'ailleurs, c'est très dur des fois pour alléger un peu les dessins. Il faut que je l'efface un petit peu parce que des fois, c'est un peu envahissant le papier.
Donc là aussi, ça vous permet de le contrôler.
Oui.
Sachant que l'histoire se déroule en 1856 et que la première partie prend place dans un hôtel avec des occupants d'une certaine classe sociale, j'imagine qu'il a fallu faire quelques recherches concernant le mobilier, les vêtements notamment. Comment est-ce qu'on s'inspire d'un milieu et d'une époque qu'on n'a pas connue, et est-ce qu'on recherche plutôt le réalisme ou alors qu'on va plutôt puiser dans l'imaginaire collectif comme le cinéma, les représentations qu'on a?
Alors moi j'ai fait disons que j'ai recueilli des images tout d'abord pour suivre l'inspiration et l'univers que j'avais dans ma tête. Après j'ai fait des recherches plus précises par rapport aux robes, à l'architecture, parce que effectivement j'avais des détails assez précis par rapport à l'année, le style, et j'avais envie de faire quelque chose qui soit correct. Voilà. Du coup, c'était assez intense la recherche parce que, par exemple, surtout dans la mode féminine, ça change très vite. Et par rapport à l'Angleterre et la France, il y a une grande différence. Du coup, quand on recherche, il faut faire attention à ne pas s'inspirer à la mode française. Après, ça reste une bande dessinée fantastique et qui s'adresse à la jeunesse. Du coup, j'avais aussi un petit peu de tranquillité à ne pas être trop dans le contrôle strict. Mais j'avoue que j'ai fait des recherches pour comprendre les toits des bâtiments, comment ils étaient réalisés, parce que j'arrivais pas à comprendre comment dessiner le toit de l'hôtel alors qu'on le voit juste dans une case, je pense. Peut-être deux, mais j'avais envie de le savoir. En tout cas, il faut faut trouver des bons sites, des bons livres, et réduire les recherches au bout d'un moment, choisir une ou deux sources, parce que sinon on devient vite un peu folle comme moi à un moment de tes recherches.
Il faut que ça avance à un moment.
Oui.
Et concernant justement la deuxième partie de l'histoire, lorsque Abby et Walton vont s'aventurer dans les bois pour accomplir leur quête, on change totalement d'ambiance et bien sûr de décor, notamment avec des créatures surnaturelles. On peut noter une certaine fantaisie dans le design des créatures.
Oui.
C'était voulu par le scénario ou là aussi vous vous êtes fait complètement plaisir sur la conception?
Oui, je me suis fait très très plaisir. J'aime beaucoup inventer les monstres et du coup c'était pas mal parce que j'ai fait rigoler beaucoup Anaïs. Et surtout pour les personnages, même le personnage de la mort, il est très très bizarre effectivement.
Oui.
Parce que c'est une espèce de crocodile avec un singe, des dents, une momie, on sait pas. J'avoue que j'en suis pas sûre encore. J'aime bien savoir par la vie des autres pour voir qu'est-ce qu'ils voient, parce que moi je suivi un peu mon esprit et ma fantaisie, et ça m'a beaucoup amusée. C'était vachement bien de faire ça.
On parlait d'Anaïs, donc du coup c'est l'auteur de la bande dessinée.
Oui.
Et est-ce que vous pourriez nous parler, ça s'est passé comment avec Anaïs?
Alors avec Anaïs, ça s'est passé super bien. On a en commun une amie qui est une dessinatrice pour un autre projet qu'elle a dans une autre collection. Et cette dessinatrice, Josie, elle a fait mon nom à Anaïs. Du coup, moi j'ai été contactée par Anaïs qui m'a dit Josie m'a parlé de toi, j'ai cherché des dessinatrices, des dessinateurs pour mes bandes dessinées, j'ai une histoire qui pourrait aller bien avec ton style. Anaïs avait déjà vu mes dessins du coup, et elle m'a proposé l'histoire et moi j'ai tout de suite accroché. Oui.
Dans quelle ambiance et avec quelle rigueur vous travaillez, vous préparez vos projets, Georgia?
Alors, il y a des moments où je suis très organisée, des moments où je suis un peu chaotique. Ça dépend des phases du travail. Le début est jamais très structuré, dans le sens que les recherches peuvent prendre beaucoup de temps. Et jusqu'au moment où on n'a pas le projet, voilà, le contrat signé et que tout devient réel, c'est toujours un peu difficile au début, voilà, parce que on prend le temps, on est un peu insécure. Moi, j'aime beaucoup faire des recherches et je voudrais toujours changer par rapport au travail précédent ou au dessin précédent. Mais je vois que mon style, après, des fois, c'est assez. Un petit peu, ça se répète un petit peu, je dirais, à mes yeux, alors que les autres, ils peuvent voir une évolution. Et du coup, moi, je cherche toujours de le changer un petit peu, de faire un petit pas plus loin. Et au moment où je montre mes dessins à l'éditeur, cet éditeur est content. Je trouve aussi un peu mon courage à moi et j'arrête peut-être d'insister avec les recherches et je me dis que les temps sont arrivés pour se lancer et se concentrer.
Et le festival pour vous, c'est un lieu de rencontre professionnelle, un lieu de retrouvailles entre artistes ou la rencontre d'une partie de votre public ou tout ça à la fois?
C'est tout ça à la fois parce que alors, j'aime beaucoup être en contact avec le public. Le fait de travailler avec la jeunesse aussi fait que j'ai pas que de la jeunesse ni que des adultes. C'est très varié et c'est vachement enrichissant. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Le public a été adorable avec moi et du coup, je suis très contente. Et c'est une occasion professionnelle, effectivement, parce que c'est l'occasion pour rencontrer les éditeurs et pour montrer mon propre travail aussi à d'autres artistes. Et du coup, c'est très inspirant parce que je vois des très belles expos, je vois les travaux des autres qui sont incroyables et ça me donne beaucoup envie de dessiner. Et en plus, j'ai beaucoup d'amis, artistes, copains, copines qui viennent de tout le monde et que je peux enfin retrouver sur Angoulême. C'est trop beau.
Et justement, en parlant des rencontres, est-ce que vous avez des séances de dédicaces de prévues sur ce festival 2022?
Oui, alors j'ai des dédicaces cet après-midi.
Ouais, jusqu'à 19h, là, on vous retrouve, je crois, sur le stand Delcourt, c'est ça?
Exactement, ouais. Au stand Delcourt. Et demain matin aussi au stand Delcourt, de 10h jusqu'à midi. Le samedi 10h midi chez Delcourt encore et l'après-midi je serai au musée de la bande dessinée, le musée de la cité. Il y a une très belle librairie, je vous la conseille parce qu'elle est très très belle. Et je serai une heure en dédicace de 15h à 16h.
Voilà. Super. Super, super. Forcément, Angoulême, c'est une ville que vous connaissez à bien connaître maintenant?
Oui, j'habitais ici depuis 4 ans.
Super. Ouais. Donc vous êtes chez vous pendant ce festival?
Oui, je suis très contente.
Ça, c'est un avantage.
Oui, c'est facile, effectivement.
Moi, j'ai une petite question sur la condition de travail des artistes. Oui. Il y a 2 ans, pour le Festival 2020, on avait parlé avec nos invités du rapport Racine. C'était un rapport remis au ministère de la Culture et qui détaillait les conditions de travail et de rémunération des autrices et auteurs de bandes dessinées. Il y avait eu des actions syndicales, il y avait eu des réunions, il y avait même eu un boycott partiel du festival. Deux ans plus tard, est-ce que les choses ont bougé dans la situation des artistes?
Apparemment, oui. Disons que c'est cette année, on en parle beaucoup dans les rues, même aujourd'hui, avec mes collègues et tout, au sujet des rémunérations des dédicaces. Et j'ai entendu des avis différents. Moi, je trouve que c'est toujours un bon signe quand les choses bougent, voilà, et qu'on est en train d'évoluer. On est un petit peu encore loin, peut-être, voilà, de se retrouver dans un milieu protégé. On est un petit peu encore, on doit vraiment se défendre encore beaucoup. Mais c'est peut-être mon caractère, mais j'ai tendance à être positive. Du coup, je croise bien mes doigts et je descends aussi un peu dans la rue avec mes collègues. On espère que ça va s'améliorer de plus en plus.
Et rappelons que l'union fait la force.
Oui.
Avant de conclure, est-ce que vous avez des projets en cours ou des projets futurs dont vous venez de nous parler?
Oui, alors, petit spoiler. Non, j'ai plusieurs choses. J'ai commencé à travailler un petit peu dans le dessin animé aussi, parce que la ville d'Angoulême offre plein d'occasions.
Oui.
Du coup, cette année, je serai occupée sur un projet d'animation, une série jeunesse animée. Et l'année 2023, j'ai prévu de commencer une série jeunesse en bande dessinée, de laquelle je ne peux pas trop parler. Mais ça sera toujours avec beaucoup de monstres. Du coup, c'est pas mal.
D'accord, donc l'occasion de continuer à creuser votre style.
Oui.
Eh bien, parfait. Donc, rappel, Abby et Walton, une œuvre d'Anaïs Allard et Giorgia Casetti, sortie chez Delcourt. Et donc, en dédicace sur le stand Delcourt jusqu'à 19h. Merci beaucoup, Georgia.
Merci à vous.
Bon festival.
Bon festival.
Bon festival. Et nous, on continue l'afterwork avec d'autres invités ce jeudi jusqu'à 19h sur Attitude.